Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous les avons applaudis, salués et remerciés, les blouses blanches, les soignants mobilisés depuis des semaines pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Derrière les masques, au chevet des patients, au téléphone pour orienter malades et familles, dans les salles de réanimation, beaucoup de ces femmes et de ces hommes étaient en train d'apprendre, de se former, lorsque la vague de coronavirus a plongé la communauté médicale dans une expérience d'une intensité inédite. Une tension qui a imposé une adaptation à tous les niveaux, quasiment en temps réel, manque d'effectifs et de moyens, urgence générale pour laquelle toutes les ressources humaines ont été indispensables. Et ils ont répondu présents, 250 000 étudiants en santé, parmi eux 30 000 internes en médecine, calendrier bouleversé, stages déprogrammés, recrutement, réaffectation, en soutien des personnels hospitaliers pour renforcer les services de réanimation improvisés en poussant les murs, travail en équipe, gestion de crise, apprentissage des gestes techniques et charge émotive puissante face à l'inconnu, comme à la réalité du risque infectieux et à la sévérité des complications du Covid. Cette jeunesse soignante a traversé l'épreuve dans sa complexité, la surchauffe, consciente de ses responsabilités, mais surtout confortée dans son engagement à poursuivre dans cette voie, dans des métiers décidément pas comme les autres. Priorité Santé qui donne donc aujourd'hui la parole à ces étudiants qui se sont mobilisés pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Franck Roland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant en 8e année de médecine à Paris-Saclay, chargé de mission risques psychosociaux à l'intersyndicale nationale des internes. Et à quelques mois d'être médecin, Antoine Martin, bonjour.
Bonjour.
Interne en gastro-entérologie en 11e année de médecine. On vous retrouve en ligne de Strasbourg. Audrey Moussanda, bonjour.
Bonjour.
Étudiante en médecine, 3e année d'internat, présidente du syndicat des internes de médecine générale à Strasbourg. Et on vous donne la parole en tant que président de la commission de la vie étudiante de la faculté de médecine Paris-Saclay. Docteur Nicolas Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne et immunologie clinique, praticien hospitalier dans le service de médecine interne du CHU de Bicêtre. Et tout à l'heure, on va la retrouver en direct de Mayotte, Manon Séguier, étudiante en 2e année à l'Institut de formation en soins infirmiers à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, mais aujourd'hui en stage prolongé, un Covid-19 oblige, stage prolongé dans l'océan Indien.
Priorité santé sur RFI.
Beaucoup de choses à se dire, à nous dire. On va essayer de partager équitablement la parole entre chacune, chacun d'entre vous. Et on va, si vous le voulez bien, remonter le temps un petit peu en arrière pour commencer. Franck Roland, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez entendu parler pour la première fois de ce, j'ai envie de dire, de ce satané coronavirus ?
Alors oui, c'était assez perturbant parce que quelque part, c'était quelque chose de Chinois qui étaient circonscrits en Chine, et puis certains signes étaient alertants, d'autres étaient vraiment banalisants. Et je pense qu'en France, on a aussi beaucoup banalisé dans les médias ce qui se passait en Chine, comme si ça pouvait jamais nous arriver.
Et à ce moment-là, en tant que futur médecin, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous titille ? Vous allez chercher ? Vous allez fouiller ? Ou vous suivez ça un petit peu comme un événement d'actualité qui ne nous concerne pas vraiment ?
Je pense qu'on est tous attentifs à ce qui se passe ailleurs, et comme c'est pas la première fois qu'un virus émane des pays asiatiques pour se diffuser à travers le globe, on a tous un petit peu cette attention à ce qui pourrait se passer. Mais c'est vrai qu'au début, même quand le virus a commencé à se répandre, c'était beaucoup de banalisation à type de « oh, c'est qu'une grosse grippe, finalement ça va pas être plus grave qu'une grippe, etc. etc. »
Alors, opinion justement pour voir comment ça se passe pour d'autres étudiants. Antoine Martin, à partir de quel moment est-ce que vous prenez la mesure de ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'il y a une sorte de date où ça bascule selon vous ?
Réellement, à la mi-mars, quand le Premier ministre a annoncé le confinement, je pense que là, on a tous pris conscience que c'était quelque chose d'assez exceptionnel qui se passait. aussi bien du point de vue personnel, parce que ça a bouleversé tous nos habitudes, mais aussi du point de vue médical.
Avec la prise de conscience donc sur ce quotidien, mais aussi en termes de prise de risque, aussi bien pour les soignants que pour la population, à ce moment-là, vous pensez quoi ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt, nous, dans les hôpitaux ?
À ce moment-là, non. Enfin, clairement, on a tous été pris un peu à contre-pied. Et je ne pense pas qu'au tout début, on se sentait prêt, en tout cas.
Oui, allez-y.
Les moyens matériels étaient manquant, ça c'est sûr, mais en tout cas, du point de vue de nos attentes et de notre préparation mentale, non, on n'était pas prêts, ça c'est sûr.
Dans un même ordre d'idée, Audrey Moussonda, du côté de la prise de conscience, alors votre région, le Grand Est, ça a été en France métropolitaine l'une des plus durement touchées, et puis dans un temps le plus précoce. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment s'est par exemple organisée la mobilisation des étudiants ?
Alors du coup, la mobilisation s'est faite par une concertation aussi au niveau de la faculté, des directions des affaires médicales des différents centres hospitaliers et avec nous, le syndicat des internes aussi pour un petit peu, superviser tout ça. Également avec les représentants des étudiants en médecine qui sont dans des années moindres du coup que les internes. Et on avait aussi des retours, on va dire, officieux des internes qui étaient sur place, surtout au niveau des services d'urgence, de réanimation et aussi des services de médecine polyvalente, où là, l'afflux de patients était vraiment très très important et ils nous ont remonté en fait des besoins d'aide humaine supplémentaire sur ces terrains de stage-là.
Et qu'est-ce que ça a changé, Audrey Moussonda, pour votre parcours personnel ? Il y a eu bien sûr le travail d'organisation. Est-ce que vous avez eu une affectation particulière justement quand la vague a commencé à monter ?
Alors du coup, j'étais en train d'effectuer mon stage en pédiatrie, j'étais en stage en PMI. C'est une structure médico-sociale pour tous les enfants qui accueillent des enfants jusqu'à 6 ans. Et cette structure-là ne pouvait plus accueillir les patients de façon optimale, sachant qu'on devait faire en sorte que les patients sortants ne puissent pas se rencontrer. Donc on a dû arrêter les consultations. Et du fait du besoin d'aide sur différents terrains de stage, j'ai participé, je me suis portée volontaire aussi pour apporter mon aide sur des terrains de stage et j'ai pu aider justement aux urgences de Célestat que je connaissais déjà avant pour pouvoir aider à supporter l'afflux de patients et aussi toutes les urgences autres que le Covid-19.
Antoine Martin, vous à titre personnel en termes d'affectation, comment est-ce que ça s'est passé ? Vous avez dû changer d'établissement hospitalier ?
Alors exactement, moi j'étais en année recherche, c'est souvent une année qu'on fait à la fin de l'internat pour se familiariser un petit peu avec le domaine scientifique pur. Et évidemment, quand la crise du coronavirus est arrivée, on a été plusieurs avec mes collègues à se signaler auprès de nos anciens chefs de service, nos anciens chefs d'établissement, pour pouvoir être réaffectés dans l'établissement qui avait le plus besoin. Et moi, j'étais en stage en laboratoire à Henri Mondor à Créteil. Et c'est là que je me suis retrouvé réaffecté au Kremlin-Bicêtre en unité Covid.
Alors vous, Franck Roland, une unité, un institut de psychiatrie lorsque l'épidémie arrive, et vous devenez référent Covid. J'ai envie de vous demander comment est-ce que ça se passe ? Pourquoi vous, l'étudiant, vous êtes référent Covid ?
Alors, c'est vrai que je suis dans une structure de gérontopsychiatrie avec une écrasante majorité de psychiatres et pas forcément de médecins qu'on dit somaticiens, c'est-à-dire qui ne font pas de la psychiatrie mais bien de la médecine physique. Et de par ma posture de médecin généraliste en formation, rapidement, c'est vrai que j'avais plus facilement les informations pour pouvoir mettre en place une série de mesures visant à protéger nos patients qui, de par leur caractère gériatrique et psychiatrique, sont déjà rarement prioritaires pour les lits de réanimation et qui, là, du coup, étaient particulièrement à risque du fait que le Covid s'attaque notamment essentiellement aux personnes âgées.
Alors, on va parler du protocole tout à l'heure, du protocole spécial que vous avez mis en place justement pour les étudiants. Je me tourne maintenant vers le docteur Nicolas Noël. Vous aussi, vous avez créé une unité Covid au sein de votre hôpital. Vous avez été chargé du recrutement des internes. Comment ça se passait justement au début de la crise, très concrètement, ce recrutement, docteur Noël ?
Je rejoins complètement ce qui a été dit. Il y a eu autour de la mi-mars une espèce de phase de stupeur. On a l'impression que la mer s'est retirée juste avant une énorme vague. Mm-hmm. Et ça a été le signal où on s'est rendu compte, parce qu'on regardait ce qui se passait dans le Grand Est, que ça allait arriver sur la région parisienne et qu'on n'aurait pas les effectifs. Et à ce moment-là, on a dû recruter effectivement, entre guillemets, des médecins et des internes. Et c'est vraiment grâce à eux que la situation a pu être gérée. Comment ça s'est passé concrètement? On a envoyé des mails, beaucoup de mails. Mm-hmm. On a envoyé des messages sur les réseaux sociaux, via les groupes d'internes, via les syndicats d'internes, via les amicales de différentes spécialités en disant « on a besoin de vous ». Tous les hôpitaux ont fait ça. Les internes de leur côté sont également structurés. Il y a eu un matching qui a été extrêmement rapide. Des chefs de service qui connaissaient leurs internes dans les laboratoires, comme Antoine Martin, qui nous ont spontanément contactés en disant « moi, je suis disponible, je peux venir aider », d'autres par cooptation, et on a recruté de manière transitoire et temporaire. Sur Bicêtre, vous voyez, par exemple, on a recruté juste dans l'unité Covid 16 internes qui n'avaient pour certains jamais mis les pieds sur Bicêtre, qui n'avaient jamais forcément travaillé ensemble, et dans une unité complètement nouvelle pour travailler aux soins des patients pendant cette période-là. Et ça s'est fait très rapidement et je dirais même très naturellement.
Naturellement, il y a une forme d'improvisation, mais totalement réussie. Il y a une autre question là qui concerne justement, il y a certes les forces en présence, mais il y a aussi l'ennemi invisible. Comment est-ce qu'on fait quand on est en train de travailler avec des étudiants et que soi-même, on est en train d'apprendre sur ce virus, on est en pleine découverte? Comment est-ce qu'on transmet la connaissance lorsque soi-même, on ne maîtrise pas complètement ce savoir?
Eh ben, on communique beaucoup avec l'extérieur d'une part, puisque on avait les collègues italiens par exemple, les collègues allemands, puis après les collègues du Grand Est qui voyaient les choses avec quelques jours d'avance sur nous. Mm-hmm. On lit beaucoup, on s'aide de toutes les revues de la littérature qui paraissent, en essayant d'avoir un esprit critique évidemment, mais en s'inspirant, et ensuite on communique avec les internes, avec les étudiants qui eux-mêmes ont des informations de leur côté, et nous ce qu'on faisait c'est que tous les jours on avait une réunion d'une heure pour parler à la fois des patients et se les présenter et être sûr que tout le monde avait bien la même vision des patients, et on apprenait au fur et à mesure qu'est-ce qu'était cette maladie, comment il fallait la prendre en charge, et on essayait d'encadrer au mieux, nous de notre côté, ce qu'on pouvait faire. Ensuite, pour être très clair là-dessus, les internes comme les médecins, entre guillemets titulaires, ont découvert la maladie et ont avancé de pair. Il n'y a pas eu de hiérarchie sur ce moment-là. Il y a eu de l'encadrement, mais pas de la hiérarchie.
Et c'est quelque chose sur lequel on va revenir, à la fois ce travail d'équipe et à la fois cette réactivité. On va vous retrouver tous les quatre dans quelques minutes. Mais avant cela, on va parcourir quelques milliers de kilomètres pour rejoindre notre cinquième invité.
Priorité santé sur RFI.
Et voilà, on a fait pas moins de 8000 km à vol d'oiseau pour rejoindre l'île de Mayotte où vous vous trouvez. Manon Séguier, bonjour.
Oui, bonjour.
Manon, étudiante en deuxième année à l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne. Alors, vous étiez en stage dans ce département de l'océan Indien, c'est chez vous aussi, quand l'épidémie s'est déclarée. Et ce stage, Manon Séguier, il a donc été prolongé.
C'est ça, je suis arrivée au début pour un stage qui devait durer initialement 5 semaines. Et en vue de la crise, je suis restée 3 mois et je suis encore à Mayotte.
Comment ça s'est passé tout à l'heure? Je demandais aux étudiants de revenir un petit peu en arrière au début de la crise, au niveau de l'information par exemple. Vous vous souvenez, lorsque vous recevez votre premier patient Covid, est-ce que vous connaissiez le virus? Est-ce que vous connaissiez les risques?
Alors moi j'avais été un peu informée par mon ici des gestes protection, des gestes mesures à prendre. Après sinon c'est sûr que c'est un peu c'est du nouveau, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Et oui, on a appris sur le tas un petit peu en plus.
Et en termes de matériel de protection, Manon Séguier, est-ce que vous disposiez à ce moment-là du nécessaire?
Alors, au début, ça a été très compliqué, surtout à Mayotte, parce qu'il y a eu beaucoup de vols de matériel de la part des patients et aussi du personnel médical. Donc, on s'est retrouvé un peu avec peu de masques, peu de gants, on n'avait plus de solution hydroalcoolique pour se laver les mains. Donc, ça a été assez compliqué au début. Et en fait, au fur et à mesure, les gens, je pense, ont compris que si on n'avait pas de quoi soigner correctement et de quoi se protéger, on n'avait pas du matériel à notre disposition, ça allait être compliqué de soigner les malades correctement. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Mais au début, ça a été un petit peu compliqué.
Et pratiquement, vous, l'étudiante en deuxième année de soins infirmiers, quels soins, quels gestes vous avez dû et pu prodiguer et qu'est-ce que vous avez appris?
J'ai énormément appris, surtout sur un stage, un terrain comme Mayotte, parce que il y avait et l'épidémie du Covid et l'épidémie de la dengue, parce que ici on a aussi l'épidémie de la dengue. Et puis l'hôpital, c'est un hôpital pour toute l'île. Donc on est vraiment un gros pôle où on reçoit vraiment multi-pathologies. Et au niveau des actes, à peu près tous. Je pense que j'ai fait énormément d'actes que j'aurais pu ne pas faire en métropole. Que ça aille à la prise de constante, à la prise de constante de paramètres vitaux, à poser un cathéter, à prendre en charge un patient qui nécessite presque de la réanimation, à faire un massage cardiaque. Ça a été vraiment très très enrichissant pour moi, étudiante infirmière.
Et en termes d'affectation, vous avez exercé au sein de différents services?
Alors j'ai exercé aux urgences parce que j'avais 2 semaines de vacances. Sur mes 2 semaines de vacances, j'ai travaillé en réanimation pour pouvoir aider et soulager le personnel médical de Mayotte.
En termes de ressenti, est-ce qu'il y a certains moments où vous avez été vraiment impressionné, voire un petit peu submergé par l'émotion?
Au début, c'est surtout c'était la première fois que je mettais le pied dans une réanimation. C'est très impressionnant, il y a beaucoup de machines et puis il y a un vocabulaire vraiment différent de celui que j'avais pu entendre et j'avais même presque l'impression de pas du tout être à la hauteur et je me suis dit que ça allait être compliqué mais avec des ressources personnelles et aussi avec la motivation au final on acquérit le vocabulaire. Et quand il faut y aller, on y va.
Vous avez appris, mais est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes un petit peu senti, on va dire, Manon Séguier, est-ce que vous êtes senti dépassé, submergé?
J'avais l'impression des fois de ne pas être à la hauteur dans le sens où il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas, même beaucoup de matériel que je ne connaissais pas, surtout en réanimation. Comme je vous l'ai dit, le soir je rentrais, je faisais beaucoup de recherches personnelles, j'essayais de comprendre le pourquoi du comment. S'il y avait un traitement que je ne connaissais pas, je faisais des recherches sur ce traitement, pourquoi je l'avais donné. J'essayais de faire les liens avec les pathologies que je pouvais rencontrer. Et au final, avec le recul maintenant, je comprends. Mais c'est vrai que sur le set, je ne comprenais pas toujours ce que je faisais. C'est en faisant des recherches que j'ai pu me mettre à niveau.
Et cette confiance, vous l'avez aussi acquise grâce à la qualité de l'encadrement. Comment ça se passait justement? Qui était votre tuteur? Comment se passait cet apprentissage, on va dire, ce parrainage?
Alors mon tuteur, j'avais un tuteur qui est infirmier aux urgences, qui s'appelle Fabien Moreno. Il m'a suivi tout le long de mon stage aux urgences. Et il a été très encadrant. Si j'avais le moindre problème, je pouvais en parler. Et puis l'équipe est généralement très très jeune, que ce soit au niveau des infirmiers, même des médecins. Je me suis sentie super bien accompagnée en tant qu'étudiante. Hein. Si j'avais la moindre question, je pouvais la poser. Je n'avais pas honte de demander, même si ça pouvait être des questions bêtes, entre guillemets. Il y avait vraiment une bienveillance sur moi. J'avais l'impression que tout le monde était bienveillant autour de moi.
Très, très. Dernière question, Manon Séguier, justement, par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce que ces expériences que vous venez de vivre ces dernières semaines à Mayotte, ça va être déterminant pour votre choix d'affectation, pour vos choix d'orientation à venir?
Alors oui, c'est sûr que les stages que j'ai fait et avoir été pendant cette période Covid, c'est sûr que ça nous laissera tous et toutes une trace. Et moi, c'est juste je me suis vraiment redécouverte dans ce service d'urgence où j'ai vraiment particulièrement aimé l'équipe, mais aussi le fait d'être vraiment polyvalente et de pouvoir faire en même temps de la pédiatrie, en même temps gérer l'épidémie de Covid, l'épidémie de dingue, faire aussi de l'adulte, faire de la traumatologie. C'était vraiment hyper diversifié et j'en garde un très bon souvenir. Et si je dois le conseiller à un étudiant, je dirais que c'est pas la peine de partir à l'autre bout du monde, au Vietnam, faire un stage humanitaire. Il suffit de venir ici à Mayotte, c'est le 101e département français, et pourtant... c'est une vraie richesse culturelle au niveau de la culture et très enrichissant au niveau des soins, et j'en ressens vraiment grandi.
Il y a beaucoup à donner là-bas. On vous remercie beaucoup. En tout cas, on sent que pour vous, ce sera l'hôpital. On voit beaucoup d'infirmiers partir vers le libéral parce que, bien sûr, les conditions de travail, les conditions de rémunération ne sont pas forcément à la hauteur. Ce ne sera pas votre cas, Manon Séguier. Pour vous, c'est l'hôpital ?
Pour moi, c'est l'hôpital et je pense, ma vision des choses, je cherche à augmenter les salaires, mais je cherche plutôt à augmenter notre qualité et notre qualité de vie au travail. Je trouve ça plus intéressant d'avoir plus de moyens au niveau du matériel, au niveau pour les patients, en fait, plutôt que de gonfler les salaires infirmiers.
Avoir plus de temps pour le soin notamment. Merci beaucoup de nous avoir consacré de votre temps, Manon Séguier. Très bonne continuation à Mayotte, avant bien sûr de rejoindre dans les prochains mois Créteil.
RFI à Moroni, 103 FM.
Alors certains points qu'on vient d'aborder, j'aimerais qu'on puisse également les évoquer avec vous. Témoignage d'étudiants en médecine face à cette crise du coronavirus aujourd'hui dans Priorité Santé. Audrey Moussenda, on vous retrouve en ligne de Strasbourg avec la tension quand on était au cœur de l'épidémie. Justement, en termes d'émotion, je ne veux pas faire du sensationnalisme, ce n'est pas le but, mais il y a eu vraiment du côté du ressenti des choses très puissantes, très fortes. On entend notamment l'importance du travail d'équipe. Ça a été essentiel à vos yeux ?
Ah oui, oui, clairement, c'est le fait d'être en équipe qui, je trouve, apporte beaucoup aussi à notre profession. Et là, le fait de venir aider au niveau de l'extérieur, je ne me suis pas du tout sentie exclue ou quoi que ce soit. C'était vraiment avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de gratitude de venir les aider dans cette période qui était vraiment très difficile. Et même pouvoir en parler, je sais que pendant les gardes, on avait un petit temps où on arrivait à parler, que ce soit avec mes co-internes ou bien les chefs seniors, c'est toujours, ça faisait du bien en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça leur faisait du bien aussi de s'ouvrir, de parler un petit peu de ces jours qui ont été très difficiles pour certains, qui n'étaient pas encore totalement terminés aussi. Et non, cette cohésion d'équipe, je pense que c'est quelque chose de très positif qu'on va pouvoir ressortir de cette période.
Est-ce que d'autres étudiants ont témoigné sur le fait qu'ils avaient un petit peu découvert les autres soignants, tous les corps de métier, aides-soignants, infirmiers? Justement, cette cohésion, elle a permis aussi peut-être de balayer certains préjugés qui pouvaient exister, Audrey Moussenda?
Alors ça, je ne l'ai pas beaucoup ressenti, en tout cas sur mon terrain de stage, parce que en fait, à chaque fois qu'on arrive sur un terrain de stage, les internes, on est plutôt bien accueillis par l'équipe. Justement, que ce soit du coup les infirmières avec qui on travaille tous les jours, les chefs seniors, même les aides-soignantes. Donc ça, je ne l'ai pas du tout ressenti comme quoi c'était une découverte entre guillemets. Surtout que j'ai aidé aux urgences où là, vraiment, l'équipe est très soudée. Même en dehors de l'épidémie du Covid, il y a certaines grosses affluences qui là fait que il faut vraiment avoir un travail organisé et bien codifié. Voilà, l'aide-soignante installe le patient, l'infirmière prend les constantes, l'interne ou le médecin vient le voir, et c'est vraiment du travail, oui, vraiment d'équipe à la chaîne.
Très bien organisé, millimétré. Docteur Nicolas Noël, est-ce que vous avez vu, vous, au cours justement de ces semaines de crise Covid-19, des comportements évoluer ? Je reviens sur cette même question, par exemple, en ce qui concerne le rapport au personnel paramédical.
Oui, tout à fait. Deux exemples très concrets. Le premier, c'est que nous, on a créé une unité Covid dans un service qui auparavant était un service d'orthopédie. Et donc, on mélangeait des internes qui venaient, comme je vous le disais, de l'extérieur de l'hôpital, des médecins seniors qui venaient de tous les services de l'hôpital et des infirmières qui étaient à l'origine des infirmières de chirurgie et qui se sont retrouvées plongées dans le soin d'une maladie virale, respiratoire, très grave. Et tout le monde a travaillé ensemble, tout le monde s'est découvert et tout le monde a appris finalement comment travailler les autres. Deuxième exemple très concret, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les étudiants en médecine, avant l'internat, ils sont externes et eux ont été du jour au lendemain quasiment recrutés comme faisant fonction d'infirmier, faisant fonction d'aide-soignant parce qu'on en avait besoin. Et je pense que pour eux, je ne veux pas parler à leur place, mais il y a eu également l'apprentissage de ce qu'était toute la chaîne du soin et tout le monde a vraiment travaillé ensemble pendant cette période-là.
Très fort sentiment d'utilité, redistribution des rôles. À ce titre, Franck Roland, crise formatrice pour certains jeunes apprentis médecins qui n'avaient pas forcément encore toute la conscience de l'égale utilité de ces différents corps de métier, du plus petit au plus haut dans sa spécialisation.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ces jeunes étudiants dont parlait le docteur Noël à l'instant, qui se sont mis à faire aide-soignants ou infirmiers et qui pour certains ont vraiment découvert quelque chose de l'ordre d'une nouvelle pratique, un sentiment d'utilité qui était très protecteur aussi pour eux par rapport à la sensation d'impuissance que on pouvait parfois ressentir face à une maladie dont on connaissait pas tout, comme l'avait dit l'étudiante infirmière qui vient de s'exprimer. Et je pense que ça rapprochait les liens. Parce qu'on peut tous prêter main forte, on a tous des compétences un peu partagées en matière de soins et on peut tous aller donner du soin aux patients.
Est-ce que vous diriez que pour les externes, Franck Roland, l'âge a pu jouer en termes de vulnérabilité? Forcément, on a moins d'années de pratique, de formation derrière soi. Est-ce que l'âge a été finalement un facteur de vulnérabilité ou de fragilité ou pas vraiment?
Alors, pour être actuellement en train de justement faire des études et de la recherche d'un point de vue psychologique là-dessus, quand on regarde les stratégies d'adaptation qu'utilisent les jeunes soignants par rapport aux soignants plus âgés diplômés, on s'aperçoit que les jeunes soignants utilisent plus souvent des techniques qui traitent par rapport aux émotions. Voilà, quand vous savez qu'il y a quelque chose qui vous stresse dans votre vie, vous avez différentes façons de réagir. Et que ceux qui utilisent des façons de réagir autour des émotions vont soit minimiser, soit essayer justement de discuter de ce qu'ils ressentent, etc. etc. Ça, c'est beaucoup ce qu'utilisent les jeunes. Les plus âgés, plus professionnels, peut-être un peu plus justement expérimentés, utilisent plutôt des stratégies sur le problème. Voilà, il faut que je m'informe, il faut que je résolve le problème, comme ci, comme ça. Et ce qu'on s'aperçoit, en tout cas, dans les premières études qui paraissent, c'est que les jeunes, effectivement, les plus jeunes, sont peut-être un peu plus vulnérables parce que les stratégies qui recourent à l'émotion sont peut-être un peu moins efficaces dans le cadre d'une crise d'aiguë comme ça qui met vraiment les soignants et les patients en grande difficulté émotionnelle.
Antoine Martin, vous étudiant en 11e année, alors on peut dire que vous avez déjà acquis une certaine expérience puisque médecin, vous le serez dans quelques mois. Est-ce que pour autant, vous avez été à certains moments impressionné?
Ah oui, tout à fait. C'était une situation sanitaire complètement inédite et au début assez inexplicable. Moi déjà, j'étais impressionné par les capacités organisationnelles et souvent on loue la capacité plastique du système de santé français. Mmh. C'est clairement ce qu'on a vu là dans les dernières semaines qui se sont écoulées, puisque le docteur Nicolas Noël, avec l'aide de ses collègues, a quand même monté un service en quelques jours de quasiment 70 patients. Ça, c'était déjà assez incroyable. Après, il y avait pas mal de charges émotionnelles aussi avec les patients qui étaient interdits de visite à cause de du virus. Ça c'était surtout les choses principales. Ensuite, je pense qu'effectivement, la cohésion d'équipe et l'encadrement a beaucoup joué. Le mot qui est revenu beaucoup, c'est bienveillance entre tous les soignants, que ce soit entre les collègues médecins ou les collègues paramédicaux. Et c'est vraiment ce qui est ressorti de cette crise. Je pense et j'espère que l'hôpital en est ressorti grandi, en tout cas.
En tout cas, dans son image, c'est certain. Maintenant, il attend certainement des gestes concrets. Au sujet des craintes de transmission, comment est-ce que vous aviez perçu d'emblée et peut-être au cours de la maladie, de son évolution, le risque de contagion? Ça vous concerne bien sûr vous, mais aussi le soir, quand on rentre à la maison, l'entourage.
Alors moi, j'ai ma compagne qui est médecin et qui était aussi en contact avec des patients Covid, donc on ne vit qu'à deux et on n'allait pas voir notre famille avec le confinement. Donc oui, on rentre chez nous le soir avec ce risque-là. On se lève le matin en se disant qu'on peut être malade, mais on vit avec, on travaille avec et de toute façon, on n'a pas le choix et c'est comme ça.
Est-ce que certains cours vous avaient préparé à ce que vous avez vécu pendant ces semaines complètement folles?
Pas du tout. C'est-à-dire que on a quelques cours d'infectiologie, on a beaucoup de cours d'infectiologie, mais on en a assez peu finalement sur les virus. La grippe, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien quand même, qu'on apprend assez bien. Mais c'était un petit peu le virus qui s'en rapprochait le plus. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on connaissait le mieux, mais dans nos cours, les choses qui ont été un petit peu mises à jour. Alors moi j'ai passé l'internat il y a 4 ans maintenant, donc ça commence à être un petit peu vieux, mais on commençait surtout à nous parler du bioterrorisme, des choses comme ça, plutôt que l'émergence de pandémie.
Franck Roland, même si on est au téléphone, je vous ai entendu rire. Hein, je vous ai entendu rire quand on a dit les cours ne nous préparent pas à cela. C'est quelque chose aussi dont vous avez pris conscience, vous, au cours de la crise sanitaire?
Absolument. Je pense que en médecine, on a souvent tendance, si on présente une vision peut-être un petit peu caricaturale, on a un chapitre qui correspond à une maladie, qui nous décrit la maladie, qui nous décrit comment elle fonctionne et comment est-ce qu'on la traite. Et donc, vous avez comme ça un certain nombre de chapitres pour passer le concours de l'internat avant de vous spécialiser. Et donc, si vous voulez, en tant que médecin, on est peut-être un petit peu formaté à la maladie, je connais ça, je fais ceci et je soigne comme ça. Là, on était dans une maladie où finalement, il n'y avait rien de particulièrement acté. Il fallait se renseigner, il fallait se documenter, il fallait faire, etc. Donc, très déroutant, je pense. Et ça nécessite aussi des capacités de réflexion, de réflexivité, peut-être même de questionnement un peu éthique, voire même de connaissances un petit peu sur la psychologie générale, c'est quoi la réaction d'une personne dans un contexte d'épidémie, etc. Et ça, en médecine, pour l'instant, en tout cas, c'est très, très lacunaire, très, très fonction d'éthique. Et c'est pas encore quelque chose qui est mis en valeur, en tout cas dans l'enseignement médical.
Il y avait quelque chose d'inédit aussi, c'était la surcharge d'informations par les biais non spécialisés. Alors justement, comment est-ce qu'on se sépare, on va dire aussi, de toute cette pollution informative pour rester le médecin et non plus rentrer à la maison et être aussi un citoyen qui, des fois, peut être d'une certaine manière désinformé?
C'est à moi que vous posez la question.
Oui, c'est à vous que je pose la question, Franck Roland. C'est une question que chacun des médecins s'est posée aussi, parce qu'on avait un tel... Il y avait aussi le tsunami de la maladie, mais il y avait aussi le tsunami des informations contradictoires.
Absolument. Et ça, on parle beaucoup du caractère épidémique de ce virus, qui est certes indéniable. On parle peut-être un peu moins du caractère épidémique des nouvelles autour de ce virus.
On en a parlé dans Priorité Santé.
Et ce qui est intéressant, c'est que en médecine, on apprend aussi, on a toute une culture de la lecture critique d'articles, c'est-à-dire comment est-ce que face à une information caractère scientifique, on va, c'est ce que disait le docteur Nicolas Noël tout à l'heure, on va décrypter ce qui est prenable pour la pratique clinique et ce qui relève peut-être un petit peu de problèmes de méthodes de recherche, etc. Et je pense que les médias, en tout cas les médias qui vulgarisent, sont plus attirés par le fait de pouvoir vendre un article qui soit le plus possible, même si la véracité à l'intérieur est peut-être un peu discutable et on nuance pas assez. Et ça, c'est en tout cas un apprentissage en médecine qui peut confronter les soignants à des difficultés parce qu'ils ont des patients qui viennent en disant j'ai lu que tel traitement fonctionnait, prescrivez-le-moi, alors que le professionnel à la lecture critique dit que peut-être que non, on n'a peut-être pas suffisamment d'informations pour savoir si ce traitement il est efficace, voire s'il serait pas un peu dangereux.
Je pense pas que ce soit directement lié, mais malgré tout, vous avez voulu vous donner des outils à vos confrères, Franck Rolland, en créant un protocole pour les internes en médecine générale. Comment ça s'est passé, la création de ce protocole, et est-ce que vous avez eu des retours sur cette initiative ?
Alors, c'était un protocole plutôt pour les soignants de l'institution dans lequel je travaillais, mm-hmm. Qui visait, voilà, à partir des données de la science analysées, critiquées, à proposer des mises en place qui protègent les gens de l'infection et de son caractère à diffuser dans l'établissement. Ben, moi, ça m'a permis déjà de travailler beaucoup sur la recherche et de critiquer et de me mettre à jour en permanence. Et les équipes, en fait, ça les rassurait beaucoup de se dire que, voilà, il y avait des données quand même qui étaient assez certaines et que, voilà, quand on accueillait un nouveau patient qui venait de l'extérieur, on l'isolait pendant un certain temps pour surveiller qu'il ne développe pas un certain nombre de signes et pour pouvoir ensuite lui permettre de quitter la chambre sans risquer de contaminer les autres patients. S'inscrit un peu dans ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est qu'il y avait aussi l'interdiction des visites, l'interdiction des permissions, qui, ça, pour des patients, notamment en psychiatrie, dont c'est quand même des outils thérapeutiques, était très difficile à vivre.
Audrey Moussenda, sur cet aspect de la découverte du caractère émergent du virus, de l'expérimentation quasiment, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt stimulant quand on est au début de son expérience professionnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut bloquer parce qu'on a peur de mal faire ?
Je pense que c'est les deux, en fait. C'est les deux parce que, bien sûr, c'est une nouvelle maladie, on veut apprendre, on veut pouvoir donner tous les moyens possibles pour pouvoir soigner ses patients. Mais d'un autre côté, justement, nouvelle maladie, on n'a pas encore assez le recul d'années d'études, de recherches sur des traitements, sur des protocoles de prise en charge, où là, on peut se dire, bah voilà, pour ce patient-là, avec ces critères-là, ce protocole de prise en charge sera plus bénéfique que celui-là. Là, c'était vraiment, on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a actuellement, en essayant d'actualiser ses connaissances le plus possible et pour être le moins délétère possible. Mais je pense que quand même, on va en sortir grandi parce que, comme l'a dit le professeur Noël, il y a cette connaissance qui a été partagée par tous les extérieurs, que ce soit au niveau international, mais même au niveau national, où les grands CHU essayaient de transmettre les avancées qu'ils avaient vues sur certaines prises en charge avec les autres CHU. Je sais qu'à Strasbourg, on essayait de, sur les trois principaux centres hospitaliers de la région, on essayait de transmettre le plus d'informations possible.
On va aborder un dernier aspect, notre dernier sujet, même s'il y en avait encore beaucoup d'autres sur la table. Franck Rolland, vous parliez tout à l'heure du suivi que vous avez fait, essayer d'analyser ce qu'a l'impact sur la santé psychique des étudiants. Est-ce que vous avez des chiffres, des indications, ou c'est encore trop tôt pour avoir du recul ?
Alors, il y a des chiffres qui existaient déjà avant le coronavirus. On sait par exemple que sur 21 000 étudiants en médecine de la première année à la dernière année, il y a grosso modo deux tiers de symptômes d'anxiété pathologique chez cette population, un tiers de dépression et un quart d'idées suicidaires. Ça, c'est des chiffres de 2017. Et c'est vérifiable dans toutes les filières de santé, que ce soit chez les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, etc. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a eu deux réactions. Il y a eu des gens qui se sont précipités pour prêter main forte, parce que c'est un peu le cœur de notre métier aussi. Voilà, il y a une maladie qui envahit le territoire et qui peut être très grave. Et en tant que soignant, c'est naturel d'avoir envie d'aider, de participer à l'effort public, surtout que c'est un système. C'est pas parce qu'on n'est pas en réanimation qu'on participe pas à l'effort de soins. Donc ça, c'est une première chose. Là, ce qu'on voit avec le déconfinement et l'aplanissement un petit peu de la courbe épidémique, c'est que peut-être il y a une réaction un peu de soulagement. Voilà, les soignants ont l'impression peut-être d'avoir passé un premier cap. Et donc, pour l'instant, peut-être un peu de soulagement. Pour certains, déjà un peu de désillusion. C'est-à-dire, beaucoup d'applaudissements le soir, beaucoup de merci, bravo pendant le pic épidémique. Et puis là, peut-être qu'on revient un petit peu plus à la normale. Et peut-être qu'on va oublier un petit peu tout ce qu'on a dit sur sur la mobilisation des soignants. Mais peut-être que le pire reste à venir, si je puis dire, et ça se voit aussi, ne serait-ce que pour les populations de la, enfin la population générale qui a été confinée, qui a arrêté peut-être de se soigner, qui a développé des troubles psychologiques éventuellement. Et ben peut-être que chez les soignants, voilà, l'effet du burn-out, l'effet de cette mobilisation massive va apparaître dans les prochains mois, et donc il va falloir être assez vigilant sur ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a notamment le Centre National d'Appui, le CNA, qui est accessible sur Internet et qui est une structure qui a été montée à l'initiative des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, qui vise à développer une expertise et accompagner les étudiants en santé au cours de leur cursus. Et on espère que qu'ils vont aussi rajouter des fonds dans cette structure-là, parce qu'on en aura beaucoup besoin.
Nécessité de rester attentif, hein, d'assurer le suivi. Audrey Moussenda, est-ce qu'il a fallu dépasser certains moments plus compliqués que d'autres ? Est-ce que vous avez vu des personnes flancher ? Comment est-ce qu'on vit tout cela quand on rentre chez soi le soir ?
Oui, en effet, j'ai vu des personnes flancher. J'ai vu des médecins seniors qui étaient lassés en fait de l'affluence de ces patients, et ces patients qui, des fois, on ne pouvait pas les sauver. Il y a eu certains patients qui sont décédés, mais qui étaient assez jeunes et qui ont été assez difficiles à digérer pour certains soignants. Mmh. Après, le fait d'en parler justement avec ses collègues vivent aussi la même situation, le fait d'en parler aussi avec sa famille, ses amis. Moi, j'ai eu la chance d'être assez entourée, même si du fait du confinement, je ne pouvais pas voir ma famille. Mais garder ce lien aussi, de penser à autre chose que l'épidémie aussi, ça me faisait des petites pauses, on va dire, pour penser à autre chose. Et j'étais vraiment épaulée par mes amis et mon compagnon qui, me donnaient la force aussi de aller aider aux urgences, apporter joie et bonne humeur si je pouvais, apporter du soutien, une oreille attentive si nécessaire, et que ça soit même du côté des soignants, mais aussi du côté des patients. Prendre 5 minutes pour parler avec une patiente alors que son mari est hospitalisé justement pour du Covid et qu'elle vient pour une urgence, et qu'elle a peur aussi d'attraper cette maladie, prendre juste 5 minutes pour discuter avec elle, ça lui fait aussi du bien.
Donc docteur Nicolas Noël, est-ce que c'est quelque chose qui retient vraiment votre attention aujourd'hui, hein, le ressenti de ces internes qui, comme vous, d'ailleurs, vous venez tous de vivre des semaines pas comme les autres? On en parle entre soi, en équipe, ou c'est encore difficile ?
On en parle, il faut en parler, mais je pense qu'on va en parler. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour discuter de certaines choses. Le temps immédiat, c'est ce que viennent de dire les collègues, c'est le ressenti de ce qu'on a en temps réel vis-à-vis des patients. En particulier, la notion d'isolement des patients a été quelque chose de très impactant, je pense, pour tout le monde. Quelle que soit la sévérité des patients, bien évidemment, malheureusement, pour les plus graves d'entre eux, ça a été encore plus mal perçu, en particulier au début. Il y a un deuxième temps assez récent qui est de se dire, tiens, on a l'impression que la vague se retire, mais est-ce que vraiment elle se retire ? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ? Est-ce qu'il y a 8 ans ? Ça, on verra bien. Et puis, il y aura un troisième temps, je pense, qui sera vraiment celui du débriefing et qui va être variable en fonction des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de débriefer assez rapidement. Il y en a d'autres qu'il faudra pas qu'on loupe. Et ça concerne les seniors de tous âges, comme les internes, comme les externes. Et ça va peut-être se faire dans un deuxième temps. Ça va peut-être se faire à la deuxième vague. On va se rendre compte à ce moment-là qu'il y a des collègues qui n'arrivent pas à repartir, parce que c'est peut-être à ce moment-là que ces souvenirs vont se démasquer. Et je pense qu'il faut qu'on reste très vigilant, et notamment pour nos jeunes étudiants qui vont passer l'internat là, dans les quelques semaines qui viennent, qui derrière vont avoir une phase de choix de leur métier. Et je pense que ce qu'on vient de vivre va être très impactant dans le choix de leur futur métier.
Antoine Martin, on a parlé du soin, on a parlé des émotions. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? C'est plutôt serein après cette expérience, ou encore fourbu et peut-être un petit peu accablé ?
Non, plutôt quelque part plutôt serein, parce que je pense qu'on a quand même réussi à travailler malgré tout dans de bonnes conditions et faire du mieux qu'on pouvait. Là, c'est un peu le temps du repos en attendant éventuellement une deuxième vague, comme disait le docteur Nicolas Noël. Pour le moment, non, plutôt serein et plutôt c'était plutôt, je pense, gratifiant dans cette période de pouvoir se rendre utile, de pouvoir aller au travail tous les matins, se lever tous les matins avec un but et un objectif.
Votre soutenance de thèse est dans quelques mois, Antoine Martin. Gastro-entérologie, pas de regrets, pas de réorientation. On signe encore pour quelques années en infectiologie ou en réanimation, non?
Non, aucun regret.
Attention. Hein.
Attention, ça va prendre du temps. Alors, docteur Nicolas Noël, à vous. Alors, dernière question liée directement à l'actualité. Hein. On a juste entendu brièvement le mot Ségur, cette formule, cette concertation qui doit aboutir avant la mi-juillet, selon ce qu'a dit le chef du gouvernement hier, à une refondation du système de santé français. Édouard Philippe, toujours lui le Premier ministre, a annoncé une revalorisation significative pour les soignants. Alors, docteur Nicolas Noël, vous faites partie du collectif Interhôpitaux, donc de cette mobilisation. Vos attentes, c'est quoi? Exercice de synthèse en une minute et demie.
D'une part, je ne vais pas parler au nom de tout le collectif Interhôpitaux. Je fais partie des gens qui soutiennent. Ce qu'on attend, très clairement, c'est de pouvoir améliorer nos qualités de travail. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important, de pouvoir améliorer la qualité du soin qu'on a des patients. Ça passe par augmenter le nombre de lits, du moins arrêter leur fermeture, arrêter une logique comptable qui n'est pas compatible avec le soin actuel. Et je pense quand même, moi, qu'il faut revaloriser les salaires, les plus bas salaires, et notamment les salaires infirmiers, les salaires des étudiants en médecine également. Je pense sincèrement que 300 euros pour un externe de sixième année, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Le salaire des internes aussi, ça en fait partie. Et il faut être assez clair, je pense que l'attractivité passe par deux choses majeures pour moi. La qualité au travail, de loin la plus importante, et le salaire quand même. Troisième et dernier élément, je pense que en termes de gouvernance, ce qu'on vient de vivre a mis le doigt sur le fait que quand on avait effectivement un but pour aller au travail, et notamment qu'on pouvait faire du soin des patients en sachant qu'on allait faire du soin, c'était ça qui faisait que ça fonctionnait. On a travaillé de pair avec nos administrations et je pense qu'il faut que ça se poursuive avec des décisions qui soient vraiment des décisions communes entre les décisions de soins, qu'elles concernent les médecins, les soignants, infirmiers, aides-soignants et également les patients et puis les administrations. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à transformer l'hôpital de demain.
Eh bien, la synthèse, vous y connaissez, c'était très bien. Merci beaucoup, docteur Nicolas Noël. On vous remercie hein, tous d'avoir participé à cette émission. On aurait pu, bien sûr, échanger encore longtemps sur vos différentes expériences et vos ressentis. Merci Audrey Moussanda, étudiante en médecine, présidente du syndicat des internes de médecine générale. Vous étiez en ligne de Strasbourg. Docteur Noël, médecin spécialiste en médecine interne, immunologie clinique, président de la commission de vie étudiante de la fac de médecine de Paris-Saclay. Vous, Franck Roland, étudiant en médecine à Saclay aussi, 8e année, chargé de mission risques psychosociaux à l'intersyndicale nationale des internes. Et à vous, Antoine Martin, interne de gastro-entérologie en 11e année. Bon courage pour la thèse. Et pour entendre d'autres témoignages hein, sur cette jeune génération face au Covid, je vous renvoie au grand reportage diffusé le 30 avril sur RFI, toujours disponible en podcast, débutant en première ligne face au coronavirus. Grand reportage de Marie Normand. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À C'est tout Samak et Ophélie Lassienne, Juliette Brault, Didier Bleu et Didier Chérouse. Demain, nous allons parler de la dépression, symptômes, diagnostics, prise en charge de cette maladie psychique, bien sûr. Des spécialistes en direct avec nous pour répondre aux questions. À demain, d'ici là, portez-vous bien et on continue, hein, on se lave toujours bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.